Nous ouvrons cette parole du Seigneur et je vous invite donc à lire dans le premier livre des Rois, chapitre 17, à partir du verset 10. C'est la rencontre et le séjour d'Élie à Sarepta auprès d'une veuve. Et nous avions déjà vu la rencontre avec cette veuve dimanche dernier. Nous continuons donc l'examen de ce récit. 1 Rois 17, à partir du verset 10. Le Seigneur dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Verset 10, Élie se leva, il partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans la main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi, nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que le Seigneur avait prononcé par l'intermédiaire.
Donc nous continuons verset 17. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait, et le coucha dans son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez toi ?» Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui, et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusqu'à la maison, le donna à sa mère en lui disant, « Voici, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Dimanche dernier, nous avons suivi Élie dans sa rencontre avec la veuve de Sarepta. Le Seigneur demande à Élie de trouver refuge dans un endroit étonnant, un endroit hostile, le pays même de Jézabel, son ennemi juré. C'est que le Seigneur veut se rendre un témoignage à lui-même. Jézabel qui renie toute idée du Dieu d'Israël et qui préfère les Baals, elle doit savoir au bout du compte que c'est dans son propre pays que le Seigneur a réussi à protéger et à secourir Élie. Et voilà une humble veuve, au bout de ses ressources, mais d'une magnifique générosité, qui deviendra le moyen choisi par Dieu pour préserver Élie. Avec son jeune fils, ils seront gardés jour après jour pendant les longues mois de la sécheresse qui s'abattent sur la région pour prouver l'incapacité du dieu Baal à assurer la fertilité et les saisons. Et nous en étions restés à l'image de cette femme et de son fils et d'Élie, en soulignant que Dieu a donné finalement à Élie en terre étrangère bien plus que de la nourriture. Il lui a donné aussi d'une certaine façon une famille physique, spirituelle. Ils ont été au pays de Baal, ces deux ou trois rassemblés au nom du Seigneur. Et unis au Seigneur ensemble, ils ont pu rester verdoyants malgré la sécheresse. Et nous retrouvons ici cette image que nous avons lue tout à l'heure dans le livre de Jérémie et qui, me semble-t-il, résume tellement bien leur situation dans ce contexte-là. Arrêtons-nous un instant sur cette petite communauté, un petit groupe fragile. La jeune femme est veuve, sans soutien familial. Elle a été frappée très tôt par le malheur, la perte de son mari. Elle est en effet probablement assez jeune, elle n'a qu'un fils, et ce fils ne doit pas être très âgé. L'enfant lui-même est trop jeune pour travailler, il est tout ce qu'il reste à cette femme. Élie, quant à lui, est étranger, sans revenu, obligé aussi de rester discret. Quelle communauté fragile, finalement. Leur base, leur unique base, c'est la confiance qu'ils ont dans le Seigneur, le Dieu d'Israël.
C'est sur cette confiance que tout s'est construit.
C'est parce que la jeune veuve a eu confiance en Dieu qu'elle a accepté de nourrir Élie, alors qu'elle n'avait pour subsister qu'une dernière portion de farine et d'huile. Le peu qu'elle avait, le peu qu'il lui restait, elle l'a donné. Le Seigneur avait promis qu'il pourvoirait en retour à l'huile, à la farine. Elle a cru à cette promesse. Elle a osé aussi le geste qui traduisait cette foi et qui mettait cette foi en œuvre. Et ce geste, il fallait vraiment l'oser. Il faut bien nous représenter la situation, en essayant peut-être un petit peu de faire abstraction de la suite de l'histoire, parce que nous connaissons bien la fin des choses. Mais elle, au moment où elle fait son choix de confiance en Dieu, elle ne sait pas encore ce qui va se passer. Elle a la parole qu'Élie lui a dite, la promesse. Depuis ces semaines qui ont passé, où la sécheresse a sévi dans le pays, cette femme n'a cessé de voir ses réserves baisser, son dernier sac de farine, son dernier pot, et maintenant sa dernière portion. Et de même pour l'huile, il ne reste qu'une petite quantité dans sa cruche. Son fils est à côté d'elle. Sur la base de la promesse et de la demande de cet inconnu, elle donne à cet homme le dernier reste. Au moment où elle apporte à Élie la galette qu'elle a confectionnée, elle sait qu'il n'y a plus rien. Plus rien dans le pot, plus rien dans la cruche, elle l'a vu. L'offrande de cette jeune veuve est absolument immense. Jésus fera plus tard l'éloge d'une pauvre veuve qui donnera en offrande au temple 2 pièces de cuivre, une part de son nécessaire. Mais cette jeune veuve ici donne ses dernières ressources, son dernier indispensable. Elle risque le peu qui lui restait en vue de ses dernières heures avec son enfant. Et si jamais l'enfant lui pose une question, comme Isaac a posé une question à Abraham alors qu'il montait sur la montagne, la seule réponse de cette femme, c'est comme celle d'Abraham. J'attends tout de Dieu, que le Seigneur lui-même se pourvoie, qu'il pourvoie lui-même au nécessaire. Pourquoi souligner cela? Parce que, me semble-t-il, à un niveau bien moindre, mais nous pouvons avoir parfois aussi ce même sentiment d'agir à l'aveugle lorsqu'il s'agit de donner, lorsqu'il s'agit de se donner. Jésus nous a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » La promesse est magnifique à entendre, toutes choses données en plus. Mais chercher d'abord le royaume de Dieu veut dire parfois donner sans voir, ni entrevoir ces toutes choses qui nous seront données en plus. Et il arrive que le sentiment dominant au moment où on cherche d'abord, où l'on donne peut-être, c'est de se démunir plutôt que de retrouver. Au moment où on agit, on ne sait pas. L'Ecclésiaste emploie une image assez parlante pour nous dire cela. Il décrit la générosité comme un acte où l'on jette son pain à la surface des eaux. Et il invite à le faire. Jette ton pain à la surface des eaux. Alors, attendez, du pain que l'on jette dans l'eau. Difficile d'envisager quelque chose de plus incertain que du pain jeté dans l'eau. Parce que ce n'est pas ça qui risque de donner grand-chose. Le pain, c'est pas comme les petits bateaux hein, qui va sur l'eau, ça ne va pas sur l'eau véritablement. Le don semble souvent aléatoire, semble souvent incertain. Certains actes d'obéissance au Seigneur aussi nous donnent cette impression parfois lorsqu'il s'agit de les accomplir. On ne sait pas ce que cela produira, on ne sait pas si cela produira quelque chose, on ne sait pas quand cela produira éventuellement quelque chose en retour. On ne maîtrise pas. Et pourtant, l'invitation est là, elle nous est donnée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jette ton pain Avoir foi en Dieu se vit sur des gestes comme cela. Dans ces actes petits ou grands, où nous acceptons de faire, sans savoir forcément comment Dieu va accompagner ce que nous faisons. Mais où nous le faisons, mais où nous agissons quand même, parce que c'est là ce qu'il faut faire. Parce que c'est ce qui s'impose à nous moralement, spirituellement. Parce que nous sentons que Dieu nous le demande. Donner à quelqu'un du temps qui comptait pour nous, sans savoir si ce temps, nous allons le retrouver, s'il va se rattraper. Cela fait partie des façons dont nous sommes appelés à avoir ces petits gestes de foi. Se rendre vulnérable lorsque l'on veut aimer ou lorsque l'on veut se réconcilier avec quelqu'un. On ne sait pas forcément comment ça va être reçu, mais on accepte de se rendre vulnérable, peut-être, pour le but que l'on poursuit et en s'attendant à Dieu. Prendre un temps pour prier, alors que mille choses se bousculent sur notre agenda. On ne sait pas comment le Seigneur va organiser la suite, mais on prend quand même ce temps. Cela fait partie aussi de ces moments où nous faisons ces petits gestes de foi. Est-ce que nous osons de tels gestes dans notre vie avec Dieu ? Est-ce que nous prions pour que, si nous sommes appelés à agir de cette façon, Dieu nous en donne le courage, la confiance en lui vraiment pour les faire ? Est-ce que nous acceptons de temps en temps d'avancer sans filet parce que nous avons confiance qu'à sa façon, le Seigneur saura pourvoir ? C'est sur cette base que cette petite communauté de Sarepta a commencé sa traversée de la sécheresse. Et c'est une base que le Seigneur a bénie, qu'il a honorée au-delà de toute mesure. C'est donc une première image, me semble-t-il, une communauté qui est là fondée sur la confiance en Dieu, véritablement. Une autre image que nous laisse cette petite communauté de Sarepta est celle d'un trio humble et petit qui a cherché son refuge dans le Seigneur et qui se découvre chaque matin accompagné et secouru. Ça commence certainement dès le moment où ils retournent tous ensemble à la maison pour y installer Élie après qu'il ait mangé la fameuse galette qui lui a été donnée. Et on imagine la jeune femme qui rentre dans sa maison et qui peut-être jette juste un petit coup d'œil en passant vers le pot de farine qu'elle vient de laisser vide en partant pour aller, il y a une heure, pour aller vers chez Élie. Incroyable ! Le fond du pot est tapissé d'une belle petite couche de farine. Et l'huile, c'est pareil, il y a un petit fond qui est là dans l'huile, alors que dans la cruche, alors qu'on avait laissé les choses vides. Et il y a là de quoi faire non pas une galette, mais au moins trois. Il y en a pour tout le monde. On installe Élie dans sa chambre et bientôt, on entend une joyeuse invitation dans la maison. Ce soir, galette pour tout le monde. Et ce sera comme cela, tous les jours, après chaque nouvelle fournée. On remarquera quand même qu'à chaque fois, il faut probablement finir le stock pour recevoir à nouveau, comme de neuf, le don de Dieu. Mais pendant près de 2 ans, ce trio vivra sur la base de cette fidélité renouvelée par le Seigneur sur ce miracle de chaque jour. Alors on pense bien sûr à un autre événement qui ressemble à cela, la manne au désert, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert. Là aussi, ils ont reçu chaque jour ce dont ils avaient besoin. Mais ce qui est touchant, me semble-t-il, ici, dans cette histoire, c'est le côté très intimiste de la chose. Dieu fait cela pour deux ou trois, dans une petite maison toute discrète, là, au milieu d'un village, en pays étranger, au cœur de la famine. Personne n'en sait rien. Aucun tapage autour de cela. Il n'y a pas non plus des quantités qui permettraient de faire des stocks ou un commerce. Il n'y a même pas de quoi non plus organiser une grande manifestation de témoignages face au dieu Baal pour dire « voilà ce que Dieu fait ». Non, c'est tout est nu, c'est pour Dieu deux ou trois. Le miracle de Dieu ici se passe dans l'intime et pour l'intime. N'empêche que chaque membre de ce trio sait très personnellement que s'il est encore là pendant tout ce temps de la famine, s'il est là, c'est uniquement par l'action de Dieu, à la fois si réel et si ténu. Le miracle pèse à chaque fois, allez disons, 450 grammes. 450 grammes liquide compris, pas plus. Il me semble que c'est aussi comme cela que se vivent aujourd'hui de vrais miracles. Telle personne, dans la maladie, découvre chaque jour les forces pour tenir et la paix pour être bien et même pour apporter le bien. Et si on parle, cette personne est obligée de dire « ça ne vient pas de moi, je le sais, c'est pas possible que je sois comme cela ». Il y a une sorte d'étonnement. Le Seigneur est là, il agit, il donne ses ressources. Pour un autre, ce sera le soutien réel que Dieu donne face à telle tâche ou telle mission à accomplir. Jamais j'y serais arrivé tout seul, je le sais trop bien. C'est l'expérience intime que l'on fait. Pour un autre, c'est la différence tangible qu'apporte le fait d'avoir choisi de mettre à part régulièrement un temps pour la prière. On a fait ce choix et l'on découvre, mais oui, le Seigneur est là. Il ordonne les choses, il soutient, il donne des ressources et quelque chose se passe. Pour un autre encore, ce sera une série de petites victoires sur une mauvaise habitude ou sur un trait de caractère qu'on a confié au Seigneur pour qu'il les transforme. Pour un autre encore, ce sera l'amour que l'on découvre petit à petit s'installer pour quelqu'un que l'on n'aimait pas forcément ou avec qui on avait même à l'égard duquel on avait peut-être de l'agressivité. On demande au Seigneur de nous aider à aimer et on découvre que par petite dose, oui, quelque chose germe en notre cœur. De ces miracles, il est parfois difficile d'en parler parce que c'est des choses très très intimes et ça se mesure sur des quantités qui sont pas forcément toujours faciles à exprimer. C'est si peu, si intime, et pourtant on le sait, quelque chose s'est passé. Quelque chose se continue et quelque chose qui n'est pas de nous. C'est comme dans notre récit, un miracle à 450 grammes par jour, pas plus, mais c'est du vrai. C'est l'action de Dieu. Un peu plus tard, avec Élisée, on assistera à un autre genre de miracle en faveur d'une veuve criblée de dettes. Élisée rencontrera cette veuve, il demandera à cette personne de rassembler le plus grand nombre possible de jarres et de récipients possibles. Une fois que tout cela est rassemblé, la veuve découvre l'action de Dieu. Chaque récipient est rempli d'huile et elle peut vendre toute cette huile et payer toutes ses dettes. Alors ce miracle-là, au temps d'Élisée, ça c'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. Il y a toutes ces jarres, ces dizaines de litres d'huile. Et on ferait volontiers la norme de l'action de Dieu de ce type de miracle lourd que fait Élisée. Mais notre texte ici nous rappelle qu'il existe aussi des miracles plus légers, mais tout aussi réels, tout aussi magnifiques. Voyez cette phrase qui est si belle. « La farine qui est dans le pot ne manquera pas », c'était la promesse. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur le pays. Et c'est avec cela que ce trio a pu traverser toute la sécheresse. L'autre aspect magnifique de ce miracle, c'est qu'il intervient pour un tout petit trio. Un prophète, une jeune femme, son enfant. Et ce que nous dit ce texte ici, c'est vraiment l'attention du Seigneur pour les humbles qui cherchent leur refuge en lui. Et nous découvrons aussi ici un autre choix de Dieu qui est fréquemment exprimé dans l'Écriture. C'est le choix que le Seigneur fait de soutenir, de relever ses petits, les petits qui attendent tout de lui sans beaucoup de ressources en eux-mêmes. Et ce texte nous rappelle que nous ne serons jamais trop peu de choses pour le Seigneur. Nous ne serons jamais trop peu de choses pour le Seigneur. Jamais trop peu pour qu'il s'intéresse à nous. Jamais trop peu pour qu'il agisse envers nous. Le psaume 40 le dit d'une belle façon. Moi, dit le psalmiste, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Et Jésus confirme avec les béatitudes. Heureux, dit-il, heureux les pauvres de cœur. Car le royaume de Dieu est pour eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils habiteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Recevoir aussi ces paroles. Il ne s'agit pas là de simples généralités, mais ce sont des paroles d'espérance. Ça veut dire que si je me découvre pauvre de cœur, Je sais qu'il existe des ressources auprès de Dieu pour moi. Si je me retrouve dans les larmes, je sais que le Dieu des béatitudes aura des ressources, une attention pour moi. Jamais je ne serai trop insignifiant. Et c'est d'ailleurs pour cela que le seuil minimum d'une église, l'église, le corps du Christ, le temple de Dieu, le seuil minimum d'une église, c'est quoi? Là où deux ou trois sont rassemblés. En mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la promesse du Seigneur. Le Seigneur habite les acclamations des multitudes célestes. Et le Seigneur habite là où il y a deux ou trois, humblement, comme ce petit trio. Voilà notre Dieu. Nous ne serons jamais trop insignifiants pour lui. Soutenu par le Seigneur, donc, nourri par lui, par sa grâce, notre trio traverse tant bien que mal les semaines et les mois, alors que la sécheresse se fait de plus en plus sévère. On commence autour d'eux à devoir abattre du bétail parce qu'il n'y a plus d'herbe pour le nourrir. Peut-être que la fébrilité s'empare de certains lieux de culte, on redouble peut-être les invocations au dieu Baal, mais en vain. Certains peut-être se mettent à douter, se replient sur eux pour leur survie, penser qu'on ne peut compter que sur soi pour s'en sortir. Et au cœur de tout cela, parce que leur ancrage est en Dieu, Élie, la jeune femme et son fils sont en paix. Dieu pourvoit au nécessaire, et cette paix de Dieu est comme un fleuve immense qui les porte. Alors ce n'est pas un festin, bien sûr, qu'ils ont tous les jours, mais leur galette quotidienne a un tel goût de fidélité de Dieu qu'on les imagine comblés et vraiment reconnaissants. Ils sont en sécurité, Dieu prend soin d'eux, ils sont en paix. Et c'est alors que survient un événement qui prend Élie, la jeune femme, complètement par surprise. Ça nous est dit au verset 17, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. La maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. Il est mort. Et voilà, alors que de toute évidence, Dieu prend soin d'Élie et de cette jeune femme, voilà qu'une crise majeure, une crise terrible, frappe sans crier gare. En un instant, tout est dévasté. La paix qui avait accompagné ce petit trio déserte tout d'un coup les cœurs, déserte la maison. L'angoisse, la douleur prennent toute la place. L'avenir se bouche, le présent devient suffocant. On avait tout le nécessaire, il manque désormais l'essentiel, cet enfant, cet amour. L'action de Dieu se voile, on n'en voit plus le sens. À quoi bon donner du pain si c'est pour permettre une mort subite? Pourquoi aider ici et laisser là? Et la mort d'un enfant, c'est toujours tellement cruel. Elle vole toute une vie, la mort d'un enfant, elle frappe l'innocence. Elle blesse les liens affectifs les plus forts. Elle installe l'inacceptable réalité comme une espèce de monstre hideux, blessant au cœur d'un des rares endroits de bonheur préservé dans l'existence humaine. La mort d'un enfant, c'est un point placé avant la fin de la phrase, a dit un psychologue. Un terrible et douloureux point qui coupe net ce qui était en train de s'ébaucher pour l'enfant dans la relation pour le renouvellement de la vie. Alors nous lisons ce récit. Ce récit nous est donné pour notre instruction aussi. Et alors que nous lisons ce texte, il nous faut prendre acte de la réalité et de la possibilité d'une telle crise, même lorsque Dieu soutient et conduit comme il l'a fait jusque-là. Ce n'est pas neuf pour Élie, c'est une nouvelle crise. Après le torrent de Kérit, ça s'était déjà passé, Dieu avait pourvu au nécessaire et tout d'un coup les choses s'inversent apparemment. C'est une nouvelle crise après le torrent de Kérit, mais il y a un même schéma, on était dans les voies de Dieu et voilà que surgit un événement qui semble contredire totalement ce que Dieu a fait jusque-là. Mais avec la mort de l'enfant, l'événement est encore plus terrible, irrévocable, tellement plus blessant. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire, par exemple, que notre vie avec Dieu ne peut être que du crise sur crise, finalement? Il faut s'attendre qu'à ça, finalement. Est-ce que c'est ça ce que ce texte veut nous enseigner? Cette question de ce que Dieu permet comme crise ou non dans notre vie, comme crise, comme paix dans notre vie, est une question difficile. Et je crois qu'il nous faut avoir l'humilité, la sagesse, de la laisser ouverte et sans réponse complètement tranchée. Si on dit « même la vie avec Dieu ne sera que crise, crise encore et encore sans jamais avoir de vraie paix », on intègre certes un certain réalisme, un réalisme qui ne nie pas qu'il puisse y avoir des difficultés terribles comme celles que l'on voit ici, et même qui peut-être se répètent. Mais on oublie, on risque de ne pas faire justice à un autre aspect, c'est que Dieu bénit aussi, c'est que Dieu fait du bien également, c'est que Dieu soutient, comme nous le voyons également dans ce texte, et c'est que Dieu, d'une certaine façon, comme il le promet aussi, aplanit le sentier du juste. Le prophète Ésaïe le dit, « Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste » et nous pouvons aussi compter sur cela dans notre vie avec Dieu. Et Paul nous rappelle que Dieu fait travailler ensemble toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dieu conduit donc nos vies. Dieu agit, Dieu protège et cela donne une certaine ligne, cela donne une certaine unité à ce que nous vivons. Notre vie ne va pas partir complètement dans le n'importe quoi parce que Dieu est là. Et avec cette ligne que Dieu trace, il y a aussi une harmonie, car Dieu est un Dieu de paix. Donc il nous faut dire que la vie avec Dieu ne peut pas se réduire à simplement dire « crise sur crise, attendons ce qui va survenir ». Mais en même temps, est-ce que ce chemin que le Seigneur a plani pour nous, et où Dieu fait travailler les choses à notre bien, est-ce que cela nous évitera toute crise ? Là encore, là il nous faut aussi bien dire que non. Depuis la révolte de l'homme contre Dieu, nous vivons dans un monde qui est blessé. L'inacceptable réalité de la mort et du mal surviennent et frappent, sans crier gare parfois. Nous le vivons, nous l'avons vécu avec Haïti, par exemple, cette année. La création elle-même a été aussi soumise à la vanité, au fait qu'il existe dans la création des choses dont on ne voit pas vraiment le sens, qui n'aboutissent pas, qui ne donnent pas des solutions harmonieuses. Il y a là quelque chose qui est une blessure au sein de la création même depuis que le mal est entré dans le monde. Et c'est aussi une forme de jugement de Dieu. C'est probablement, me semble-t-il, aussi une sorte de protection de Dieu pour éviter que le mal ne triomphe dans son projet d'autosuffisance. Si tout aboutissait bien, les gens qui font le mal auraient l'impression qu'ils peuvent continuer comme ça sans limite. De temps en temps, il faut qu'il y ait aussi des endroits où se manifeste que tout cela ne fonctionne pas, qu'il y a un dérèglement et que le mal a justement introduit ces dérèglements. Il faut le sentir. Ce qui permettra de vraiment rétablir l'ordre des choses, de faire toutes choses nouvelles, c'est un jugement clair du Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Il jugera toutes choses, il fera toutes choses nouvelles sur de nouvelles bases. Mais en attendant, nous sommes dans l'entre-deux. Nous goûtons quelque chose de ce que Dieu déjà apporte, de ce qu'il construit dans notre vie, mais ce n'est pas encore l'harmonie totale. La crise peut survenir, elle peut parfois blesser. Elle peut survenir sur notre route, même lorsque nous marchons avec Dieu, comme ici, pour Élie et cette jeune veuve et son enfant. Il arrive même que des ennuis surgissent et surviennent juste après que nous ayons décidé de faire un pas de plus avec Dieu. Juste après que nous ayons décidé de mieux vivre avec le Seigneur selon ce qu'il attend de nous. Ça arrive que peu après, on se retrouve avec une crise qui apparaît sur notre route. Alors c'est pas une loi non plus, hein, mais ça arrive. C'est parfois le diable qui veut nous décourager, mais parfois le Seigneur aussi peut permettre telle crise pour nous renforcer au travers de cette crise. Car lorsque l'on a surmonté quelque chose, on est plus fort que si on en avait été épargné. Voilà pourquoi, me semble-t-il, il faut garder absolument dans notre cœur, et comme un ancrage de notre foi, c'est que véritablement, qu'il y ait crise ou pas crise, nous restons dans la main de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous restons dans la main de Dieu. Et cette main est bienveillante. Elle veut nous acheminer vers ce qui est bien. Comment le fait-elle ? C'est une autre question. Cela appartient au Seigneur. Et nous n'avons pas, nous, véritablement, à dire à l'avance ce qui doit se passer. Le propre d'une crise, c'est qu'elle chamboule tout. Les appuis que l'on avait chancellent. Des douleurs, des angoisses inimaginables nous saisissent soudain. Dans ce chambardement, des fissures parfois s'ouvrent en nous. Les réactions aussi parfois sont très fortes. Et dans cette situation, la jeune femme ici nous montre ces différents aspects du retentissement d'une crise. Dans sa douleur, dans son incompréhension, des paroles de colère s'expriment. Et elle s'en prend à qui ? Elle s'en prend à Élie. « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Elle a trop mal, la pauvre. Il faut fixer sa colère, son désarroi sur quelque chose. Élie est là, c'est lui qui va prendre. Elle oublie que sans sa venue, son fils serait probablement déjà mort. Elle oublie le pot de farine, la cruche d'huile, ses 450 grammes quotidiens donnés par Dieu ne pèsent plus rien maintenant. Elle n'a pas, dans sa douleur, les ressources pour demander de l'aide à Élie. Elle a trop besoin de s'opposer à quelque chose pour exister un peu, pour ne pas être complètement anéantie par ce bulldozer qui passe sur elle. Et tout cela nous rappelle que, en plein cœur d'une crise, lorsque nous sommes en plein milieu de la tourmente, nous pouvons parfois ne plus savoir penser très très clairement. En particulier, nous aurons tendance à chercher à tout prix quelqu'un ou quelque chose à qui nous pourrons reprocher ce qui nous arrive. On a tellement besoin d'une explication, d'un exutoire, qu'on se saisit de tout ce qui se passe, de tout ce qui passe. Et ici, c'est Élie qui prend. En même temps, la crise révèle ici une faille. Elle dit « Es-tu venu pour réveiller le souvenir de ma faute ?» Tiens, de quoi s'agit-il, le souvenir de ma faute ? Pourquoi est-ce que cette femme parle comme cela ? Est-ce que c'est une sorte de fausse vision des choses, pensant que si un tel malheur arrive, c'est que certainement il y a une faute pour expliquer le malheur ? Cela arrive que l'on pense comme cela. Est-ce que cette faute dont elle parle serait-ce son idolâtrie d'autrefois ? Est-ce qu'elle a le sentiment que Dieu lui en veut encore pour ce qu'elle a été autrefois ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une faute qui n'a pas été réglée dans sa vie et dont elle portait encore une sorte de trace en sa conscience ? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous pouvons recueillir de ce texte, c'est que la crise, lorsqu'elle survient dans notre vie, elle nous oblige aussi à revisiter beaucoup de choses en nous. Il arrive parfois que des grands chambardements nous remettent en question et nous amène à réfléchir à ce que nous sommes, à ce que nous avons été. Je crois que c'est utile si parfois se révèlent certaines choses qui n'ont pas été réglées, que nous saisissions ces occasions pour tout remettre à plat, tout remettre en règle devant Dieu ou devant les autres si c'est nécessaire. Nous devons être ouverts au fait que Dieu puisse se servir ici ou là d'une crise, d'une difficulté comme un révélateur pour nous faire du bien finalement parce qu'il nous aide à pouvoir travailler sur quelque chose que nous avions un petit peu trop enfoui. Mais la crise, à ce moment-là, a comme fonction de révéler les choses. Et il s'agit vraiment de venir devant Dieu à la lumière de sa parole, de son pardon. Mais en même temps, il nous faut aussi être vigilants sur nous-mêmes et savoir résister à ce genre de mouvement. Parce que quand on est en situation de crise, de difficulté, l'auto-accusation nous guette toujours. Quand on ne trouve pas d'explication à une situation difficile, on préfère parfois s'accuser soi-même pour avoir au moins une raison, au moins une explication, ou au moins une raison identifiée à notre mal. C'est facile de fonctionner comme cela. Et on est parfois prêt, dans ce schéma-là, à s'accuser de n'importe quoi, y compris de ceux dont nous n'avons pas à nous accuser. Et il nous faut parfois aussi savoir nous gendarmer dans ce genre de situation. Il nous faut savoir garder le sens des proportions. Si à l'occasion de telle ou telle grande difficulté, je me souviens d'une petite bricole que j'ai faite, est-ce que vraiment cette petite bricole peut être la cause d'une grande difficulté ? Dieu est juste aussi, il a le sens des proportions. Et nous devons nous souvenir de ces choses-là et savoir gendarmer notre esprit par rapport à cela. Dieu est juste. Nous avons aussi à nous appuyer sur la réalité du pardon. Si j'ai confessé quelque chose à Dieu, si je l'ai abandonné, je sais que le Seigneur a pardonné, que ce n'est pas en fonction de cela que je vais retrouver telle difficulté dans ma vie. Et là, il s'agit de s'appuyer sur le pardon reçu, plutôt que de vouloir se reprocher des choses qui déjà ont été pardonnées par le Seigneur. Donc, sachons véritablement nous appuyer sur la réalité du pardon lorsque nous avons confessé, abandonné. Et souvenons-nous de toutes ces choses qui peuvent parfois nous saisir lorsque nous sommes en situation de difficulté. La meilleure solution est et reste celle du recours au Seigneur. Et c'est ce que fait Élie ici. Élie ne répond pas aux accusations dont il est l'objet. Il sait qu'elles sont le fruit de trop de douleurs. Mais il vient devant Dieu, avec l'enfant, avec cette situation incompréhensible. Et voyez comme Élie a besoin là de le faire tout seul. Il prend l'enfant, il monte dans sa chambre, et là il invoque le Seigneur. Et on imagine qu'il le fait avec une angoisse totale, avec en mettant tout son être dans cette invocation. Et vous avez vu la façon dont il vient au Seigneur. Il vient avec une immense question. Éternel, mon Dieu, vas-tu faire du mal à cette veuve qui m'accueille? Vas-tu faire du mal, Seigneur, mon Dieu? Et puis ensuite, on voit Élie qui engage tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut. Il est un enfant, il se couche à 3 reprises sur lui. Pourquoi fait-il cela? Ce n'est pas un acte magique, en tout cas, ça on le sait. Il ne s'agit pas de dire par acte magique, je lui donne moi-même ma vie ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas du tout dans les normes de la pensée biblique. C'est peut-être plutôt une manière de s'associer profondément, totalement à la situation, de la faire sienne. Élie se couche sur cet enfant, c'est comme si c'était lui. Et en même temps, il se fait même rituellement impur, il se couche sur un enfant mort. Mais il prend sur lui ce risque pour dire que cette situation, elle est sienne totalement. Mais l'élément décisif, c'est sa prière, c'est son appel vers Dieu, renouvelé. Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne. Vous avez vu que dans les 2 prières, Élie dit, Éternel, mon Dieu, il n'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour lui, ce que le Seigneur a fait pour eux pendant tous ces mois passés. Il n'oublie pas que Dieu est à la fois le Seigneur de toutes choses et un Dieu infiniment personnel. C'est tout ce qu'il peut faire valoir, mais cela, il le fait valoir. Et il persévère 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le Seigneur répond. Et l'enfant revient à la vie. C'est la première fois dans l'histoire de son peuple que Dieu agit ainsi. C'est la première fois. Il n'y en aura pas beaucoup d'épisodes comme cela dans l'histoire du peuple de Dieu. Dans toute la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament confondus, des résurrections qui viennent suite à la prière du peuple de Dieu, d'un enfant de Dieu, elles tiennent sur les doigts d'une main, le nombre de résurrections de ce type-là. Et si on ajoute celle que Jésus a opérée, on a encore sur l'autre main. Donc on est vraiment là ce n'est pas la manière ordinaire de faire du Seigneur. Car le Seigneur a voulu, on va dire, réserver le privilège de la résurrection à celui qui viendrait pour prendre dans sa totalité le problème de la mort et du péché. C'est le Christ, mort pour nos péchés, ayant subi la condamnation pour ses péchés, sans lui-même mériter la mort, c'est lui qui est le prince de la vie, en ayant vaincu la mort dans toute son épaisseur. Le Christ a d'abord payé le prix du péché, et ensuite, il a pu manifester le triomphe de la vie sur la mort. Et c'est à lui que revient la résurrection, le privilège de la résurrection. C'est à lui qu'il reviendra au dernier jour de ressusciter tous ceux qui sont morts, les uns pour la vie éternelle auprès de Dieu, les autres pour la mort éternelle loin de Dieu. Il a, lui, affronté, vaincu la mort dans toute son épaisseur. Et c'est pour cela, c'est lui qui a le privilège de cette action de résurrection. Nous n'avons donc pas, me semble-t-il, à chercher à reproduire ce qu'Élie a fait ici. Nous attendons pour ceux qui meurent dans le Seigneur une résurrection meilleure, définitive, véritable. Et c'est beau pour nous de savoir que véritablement, ceux qui meurent dans le Seigneur vont vers quelque chose qui est plus beau, vers quelque chose qui est plus grand. C'est notre espérance. Et c'est ainsi que nous devons voir les choses pour ceux qui s'en vont. Mais me semble-t-il, ce récit doit rester devant nous, malgré tout, doit rester comme un appel à la confiance en Dieu, comme un rappel de la puissance de Dieu, comme un rappel de la bonté fidèle et puissante de notre Dieu. Le Seigneur permet des moments d'extrémité, mais le Seigneur a aussi des ressources pour sortir par le haut des crises qu'il permet parfois. Sa bonté est grande, elle n'abandonne pas ses enfants. Et je crois que ce récit nous est donné comme un horizon à garder devant nos yeux, un témoignage des ressources de Dieu, des ressources de la bonté de Dieu, des ressources de la compassion de Dieu, de sa puissance à faire du bien, et un encouragement à chercher auprès de lui, dans les différentes situations de vie que nous connaissons, à chercher ce même recours, en ayant confiance, parce que le Seigneur est solide et il a les ressources. Lorsque je me préparais à cette prédication, je réfléchissais à me dire, mais en quoi est-ce que nous pouvons nous appliquer vraiment un texte comme celui-là? cette résurrection de cet enfant. Et c'est jeudi, j'avais passé un coup de téléphone à Marie-France. Et elle, on parlait, je demandais des nouvelles de son œil, et elle me disait, je suis très inquiète, il semble que maintenant le greffon est en train de... qu'il y a un rejet du greffon. Et le sentiment qu'on avait, c'est de se dire, mais tout ce qui a été fait arrive à néant. Vraiment le schéma. Et je me souviens, j'avais ces pensées de ce texte devant les yeux. Et je me suis dit, mais Seigneur, si ça se passe, il faut qu'on demande que tu agisses pour ce greffon. Et c'est aussi une résurrection que de faire en sorte que, véritablement, les choses puissent avancer et que Dieu puisse même éviter un rejet comme celui-là ou aller au-delà de premier signe. Alors la grâce du Seigneur, c'est que finalement, les choses sont bonnes en ce qui concerne Marie-France. Elle a pu voir le médecin qui a pu donner des nouvelles rassurantes. Mais voyez, je crois que c'était pour moi la réponse à ce texte-là. Ayons confiance dans les ressources du Seigneur. Et c'est pourquoi je termine par l'exhortation de l'apôtre Paul dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1. La prière de l'apôtre, nous la faisons nôtre véritablement. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Que toujours ce regard nous accompagne. Amen.